Vous écoutez
RMC.
RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, il est 6h08 sur RMC, je suis très heureux de vous retrouver en ce 24 octobre 2020. On va passer cette matinée ensemble sur RMC avec toujours, vous le savez, nos experts qui sont là, fidèles au poste. Demain dimanche, bien sûr, l'automobile avec Jean-Luc Moreau dès 7h. Au menu rapidement, qu'est-ce que nous retrouverons d'ici 10h sur RMC? Bien tout à l'heure, ce sera la vie numérique avec Raphaël Grably. Vous avez des problèmes de Wi-Fi à la maison, ça capte pas la vidéo, ça cadre, ça marche pas. On vous expliquera comment remédier à tout cela. Et je pense que vous aurez pas mal de questions à nous poser tout à l'heure. La forme, la santé, on évoquera le gras, ou plutôt les gras avec Christian Ekia. Les bons gras et les mauvais gras. Et puis on reviendra sur le changement d'heure. On passe à l'heure d'hiver, Thibault le disait il y a un instant. En quoi ce changement d'heure a un impact sur notre santé? Ce sera donc tout à l'heure entre 8 et 9 avec Christian Ekia. 7-8, la maison Christian PC. On reviendra encore une fois sur ma prime Rénov. On essaiera concrètement de vous expliquer comment ça marche parce que bien entendu, comme à chaque fois avec les primes, c'est très 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 compliqué. Et pour débuter, vous le savez, avant la maison, c'est le jardin. Et là, pas de complexe. Ça va être vraiment une heure de bonheur. On retrouve toujours avec beaucoup de plaisir Patrick Mulan. Bonjour Patrick.
Bonjour François, bonjour à tous. Très très bienvenue dans nos jardins qui prennent de belles couleurs.
Ah oui, c'est vrai que là en ce moment, ça rougit. Est-ce que chez vous ça rougit?
Chez vous ça rougit, mais ça jaunit aussi.
Ah oui, ça jaunit.
Il y a des endroits où c'est tout doré. Ça dépend des plantes. On a déjà expliqué la raison pour laquelle tout d'un coup on ne voit plus du vert, mais des couleurs.
Oui, oui, oui. Alors moi j'ai ma vigne qui jaunit et j'ai mon érable qui rougit.
Voilà, exactement.
Et je vous ai envoyé une petite photo pour vous montrer hier.
Ah mais là, c'est vraiment le moment. Alors c'est vrai que les plantes ne sont pas toutes flamboyantes en même temps. Les érables font partie des plus précoces. Il y a les chênes d'Amérique là, qui commencent à être déjà aussi très très bien. Donc c'est aussi une chose importante pour la création de son jardin, la conception du jardin, d'imaginer l'ensemble des saisons. On voit souvent le jardin au printemps, en été, puis après on l'oublie.
Alors
c'est
que
quand même très dommage, d'autant plus que nos saisons ont tendance quand même à s'adoucir un petit peu. Regardez, les températures que l'on a actuellement permettent quand même de profiter de l'extérieur encore un peu.
La météo du jardinier tout à l'heure d'ailleurs.
Oui,
alors, vous nous direz un petit peu ce qui va se passer cette semaine prochaine.
Un peu humide encore.
Un peu humide, bon, bah écoutez.
Ça dépend où vous habitez. Ça voilà, c'est toujours la Méditerranée.
C'est comme toujours. C'est comme toujours.
Voilà.
Et puis, évidemment, avec Patrick, on vous attend. Nous sommes en direct, le 32-16, l'appli RMC Direct Studio, pour poser toutes vos questions. Jardin, bienvenue à vous toutes et à vous tous. On accueille tout de suite Florian, avec plaisir. Bonjour Florian.
Oui, bonjour.
Bonjour Florian, bienvenue avec nous.
Florian des Bouches-du-Rhône.
C'est ça.
Vous êtes où, Florian, dans les Bouches-du-Rhône?
J'habite à Aubagne.
Aubagne, d'accord. Et on vous écoute, qu'est-ce qui vous arrive?
En fait, j'ai téléphoné pour une question que j'avais posée, c'est au sujet d'une invasion de punaises. Alors, je ne parle pas des punaises de lit, je parle vraiment de l'insecte.
Ah oui, parce que les punaises de lit, ça, c'est vraiment...
Ouais, c'est autre chose. Et donc, en fait, je suis envahi. Alors, elles ne sont plus de couleur verte, elles sont de couleur marron. Et en fait, je voulais savoir un petit peu s'il y avait des plantes qui les attiraient, enfin, s'il y avait des trucs qui les attiraient chez moi. Parce que, par exemple, à 500 mètres vol d'oiseau, chez ma belle-mère, il n'y en a pas. Et par contre, à Marseille, un peu plus en ville, il y a des gens qui en ont aussi et qui n'ont pas forcément des balcons avec des fleurs, etc. Donc, voilà, je voulais savoir un petit peu si on avait de quoi limiter leur propagation.
Alors, en grossissant vos photos, parce que c'est pas évident de photographier des punaises, c'est assez petit, j'ai réussi à voir que c'était Alliomorpha alis, c'est-à-dire un nom invraisemblable. On appelle ça la punaise diabolique. Alors, punaise marbrée aussi. C'est une espèce qui est originaire de l'Asie et qui est arrivée d'abord aux États-Unis, puis après en Europe, en tant que ravageur des cultures, en fait. Le problème, c'est surtout un insecte qui dévore, on va dire, les arbres fruitiers. Mais pourquoi est-ce qu'elles sont chez vous? Eh bien parce qu'en cette saison, elles viennent tout simplement passer l'hiver.
Ah.
Et elles peuvent se réunir en très 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 grand nombre. ça peut arriver vraiment à avoir une prolifération. Alors pourquoi elles ont choisi votre appartement ou votre maison plus que celle des voisins alentours, ça, je ne sais pas, et ça restera peut-être toujours un mystère. En tous les cas, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'elles sont là pour hiverner. Alors, bonne nouvelle, c'est que ce sont des insectes qui sont absolument pas dangereux, ni pour les humains, ni pour les animaux domestiques. Ils ne transmettent pas de maladies, ils ne piquent pas. Mais, en revanche, si vous les écrasez, ils sentent très mauvais. Donc, il faut quand même, si vous voulez les éliminer, parce que j'ai pas d'autre solution à vous donner qu'une élimination physique, c'est-à-dire manuelle, de ramasser ces insectes et puis après de s'en débarrasser. Alors vous pouvez les mettre dans un sac en plastique et puis les jeter dans la poubelle. Quand je dis un sac en plastique, c'est parce que ça sera plus efficace qu'un sac en papier, même si le sac en papier est plus écologique, mais le sac en plastique a l'avantage d'être hermétique, et lorsque vous enfermez des êtres vivants dans un sac en plastique, généralement, ils ont du mal à tenir le coup pendant un certain temps. Donc voilà. Que dire ? C'est surtout très, 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 très embêtant pour les cultures. C'est un insecte qui est récent, il a été découvert en France en été 2012 seulement en Alsace, et maintenant il y en a pratiquement partout.
C'est-à-dire qu'en 8 ans, il s'est propagé sur tout le territoire.
Oh oui, ça, ce genre d'insectes-là qui n'ont pas les problématiques d'hiver comme certains autres ravageurs. Par exemple, ceux qu'on a sur les ravageurs du palmier sont pas encore tellement remontés vers le nord parce que sont plus frileux. Alors que là, non, on est sur une punaise qui a vraiment l'habitude. En plus, comme je vous dis, elle rentre dans les habitations pour pouvoir être tranquille. Parfois, on la voit pas parce qu'elle va trouver les petits renfoncements, les recoins. Mais quand elle est très abondante, eh ben, évidemment, il y a un problème. Et pourquoi elle peut être très abondante? Parce qu'il faut savoir qu'une femelle qui pond deux fois par an, elle pond 200 œufs à la fois.
Ah oui.
Donc 400 par année. Donc multiplié par le nombre, ça peut devenir très 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 envahissant. Hein, donc voilà. Après, avec toutes les restrictions qu'on a aujourd'hui d'intervention au niveau d'entomophone, des insectes, j'ai pas de solution. Les insecticides ménagers peuvent donner des résultats. Quand vous avez des punaises qui se baladent le long des plaintes, par exemple, vous avez des bombes qui sont destinées, par exemple, aux cafards. Alors ça, il faut le savoir, il y a un truc quand même assez extraordinaire. C'est que d'un côté, vous n'avez pas le droit d'utiliser ce type d'insecticide au jardin. En revanche, quand c'est considéré comme un biocide, c'est-à-dire un produit ménager, vous avez de nouveau des matières actives qu'on utilisait encore il y a un an, il y a deux ans, dans le jardin. Voyez. Donc on est sur des ambiguïtés aussi là-dessus. Donc vous pouvez agir directement, mais en quantité modérée, bien évidemment.
D'accord.
Voilà, Florian.
Juste, je voulais savoir juste, est-ce que les géraniums pouvaient les attirer, parce que je vois que ça correspond un petit peu au moment où j'avais peut-être mis des géraniums, et d'ailleurs ils ont eu un moment où ils en ont beaucoup fané. Là, ça reprend un peu, mais est-ce que peut-être c'était ça qui les attirait ou pas, je sais pas.
Oui, ils pourraient. Alors, c'est pas sa nourriture favorite, hein, puisque en fait, la plupart du temps, ils attaquent plutôt dans les vergers. Mmh. Mais pourquoi pas, bien entendu.
Ok.
Florian, merci pour votre appel. Vous êtes en voiture, là, j'ai l'impression, avec le warning, non ?
Oui, c'est ça, pardon, ouais.
Non, mais c'est pas grave. On voit que vous êtes déjà actif. Vous travaillez là actuellement, alors, c'est ça ?
C'est ça, on est sur la route du boulot.
Qu'est-ce que vous faites comme travail ?
Je suis sapeur-pompier.
D'accord, très bien. Bah, écoutez, bonne journée de travail.
Eh ben, merci à vous.
Et à très bientôt. Merci de nous écouter, tout cas, Florian.
Au revoir. Bonne journée.
Je vais faire du Reiki, mais je dirais rendons hommage aux sapeurs-pompiers.
Bien sûr, évidemment. 6h17 sur RMC, il est temps de retrouver le conseil de Miu Miu.
Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez.
RMC,
l'astuce jardin de Miu Miu.
J'attends ton conseil.
Les roses de Noël, les roses de Noël.
Oui.
C'est Claude François, ça ?
Ah ben c'est Clo-Clo, bien sûr. Mais alors personne ne connaît cette chanson, je pense. Je pense que là, c'est vraiment la face B de je sais pas quoi. Mais Claude François fait beaucoup, beaucoup de chansons.
Peut-être la face C même.
Oui. Et on va parler justement des roses de Noël, d'où ce petit extrait de Clo-Clo et des hélébores, de superbes fleurs pour l'hiver. Peut-être pour commencer, Patrick, qui sont les hélébores et pourquoi nous les présenter en ce moment, tiens?
Ben, je vous les présente en ce moment parce que on va parler aussi des roses de Noël et que ce sont des plantes qui sont extrêmement faciles à cultiver et qui gagnent à être plantées à l'automne. Parce que s'il y a une chose que l'hélébore ne supporte pas, c'est d'être baladé dans le jardin. Une fois que vous l'aurez installée et qu'elle se plaît, alors je viens de faire une énorme faute de français que tout le monde fait, hélébore c'est masculin.
Aïe, aïe, aïe. Bon. Patrick, que s'est-il passé?
Donc une fois qu'il est planté,
et oui.
Mais c'est vrai que c'est difficile de se le mettre dans la tête.
Bah, en plus, ça commence par L, donc
ça. Peut-être que c'est pour ça, mais en tous les cas, c'est masculin. Donc un hélébore, lorsqu'il est planté dans votre jardin, doit rester en place. C'est très casanier. Alors, il y en a 13 espèces, 8 sous-espèces, qui sont validées par les instances botaniques internationales. Ce sont toutes des plantes vivaces, de la famille des renonculacées, donc les renoncules, les aconites, les anémones, les ancolies, tout ça, les clématites même, ce sont leurs cousins.
D'accord.
Et beaucoup d'hélébores se distinguent par leur floraison hivernale.
D'accord. Alors pourquoi aussi vouloir nous parler des roses de Noël dans ce rendez-vous, Patrick?
Tout simplement parce que la rose de Noël, c'est pas un rosier, c'est un hélébore.
C'est un hélébore.
Qui s'appelle, pour les botanistes, hélébore niger, donc l'hélébore noir.
D'accord. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette rose de Noël et notamment, tiens, les raisons de ce nom qui prête à confusion?
Alors, l'histoire de pourquoi on l'appelle rose de Noël, c'est parce que lorsqu'on regarde les boutons d'un hélébore, alors qu'il soit Helleborus niger ou qu'il soit d'autres hélébores, ça ressemble effectivement à un bouton de rose. Alors, faut quand même être un tout petit peu, on va dire... poète peut-être pour retrouver ça, mais ça ressemble quand même un peu. Bon, il y a aussi des histoires, notamment une légende qui voudrait que lors de la naissance du Christ, les rois mages sont passés devant une petite bergère qui avait rien à offrir du tout et qui était donc tellement malheureuse de pas avoir de cadeau à offrir qu'elle s'est mise à pleurer et les anges ont transformé ses larmes en une fleur blanche, blanc-rosée, qui fleurit évidemment à Noël.
À Noël, voilà, on est d'accord.
Alors, c'est une plante, notamment donc l'hélébore niger, la rose de Noël, qui est originaire d'Europe centrale. On en trouve de façon sauvage en France, dans les Alpes de Haute-Provence. Alors, elle pousse, cette plante, plutôt dans les bois de feuillus, dans des zones avec du terrain calcaire. Ça, il faut savoir que un des secrets de la réussite de la rose de Noël dans vos jardins, c'est d'avoir un sol plutôt alcalin. Ça, c'est important. Alors, la dimension, c'est une plante qui peut atteindre en moyenne une trentaine de centimètres. Ça peut aller jusqu'à 40 centimètres. Feuillage persistant, avec des fleurs blanches, avec un beau bouquet d'étamines dorées au centre et qui s'épanouit de décembre à mars.
Est-ce que toutes les roses de Noël sont blanches, Patrick?
Alors, maintenant, au départ, oui. Alors, blanc-rosé, ça peut avoir une petite nuance rosée, mais les horticulteurs, qui sont des gens facétieux et surtout créatifs, ont en permanence hybridé ces plantes et nous obtiennent aujourd'hui des sélections très, 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 très belles, avec des mélanges avec des hélébores orientaux, qui sont notamment donc des plantes avec plus de roses, voire même par exemple du pourpre. Vous avez Early Purple, c'est vraiment carrément pourpre. Et il y a des sélections aussi à fleurs doubles, et vous avez aussi des sélections de plus en plus avec des grosses fleurs. Il faut dire qu'il y a encore 4 ou 5 ans, il était quasiment impossible d'avoir en cette saison des hélébores niger, donc des roses de Noël, en pot et en fleurs. Il y a eu un travail horticole fait remarquable, qui fait que actuellement, dès maintenant, vous allez dans votre jardinerie, vous allez déjà avoir des potées de ces plantes-là. Et pendant tout l'hiver, vous pourrez en acheter et vraiment vous faire plaisir. Si vous n'avez pas de jardin, peu importe, vous pouvez aussi l'avoir pendant quelques semaines dans votre maison ou le placer, bien sûr, sur votre balcon.
Alors Patrick, vous nous donnez envie. Si au jardin, pour Noël, je veux avoir des fleurs, quelles précautions dois-je prendre dès maintenant ?
Alors, de deux choses, une, soit vous en achetez, vous allez acheter des plantes. Si vous avez déjà planté un hellebore Niger, vous allez vous rendre compte que souvent, il est un peu paresseux. Et pour l'avoir vraiment en fleur à Noël, il faut actuellement mettre une cloche dessus, donc, ou un petit bout de châssis, de manière à ce qu'il soit un peu au chaud et surtout qu'il soit protégé des pluies, car c'est une plante qui est assez sensible aux maladies cryptogamiques. Alors, ça se développe sur le feuillage principalement, mais lorsqu'on a beaucoup de pluie, et c'est un peu le cas en ce moment, même s'il pleut pas, il y a une très très forte hygrométrie. Vous avez dû remarquer, le matin, il y a de la rosée et tout ça. Et ça favorise le développement d'un champignon qu'on appelle le Botrytis cinerea, donc la pourriture grise, qui peut carrément empêcher la plante d'ouvrir son bouton.
Patrick, est-ce que vous pouvez nous donner pour terminer quelques conseils de culture pour bien réussir les hellebores ?
Alors, je vous disais, plutôt donc un sol calcaire. Si vous habitez dans une région comme la Bretagne où poussent naturellement les rhododendrons, là, il va falloir apporter de la chaux agricole dans votre terre parce que vraiment, ils en ont besoin. Mmh. Ça aime les sols profonds, bien drainés et surtout, en été, il faut pas mal de fraîcheur, parce que c'est plutôt une plante un peu de sous-bois, et donc mettez un bon paillis au pied, la présence de matière organique étant très 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 favorable. Moi, je le fais au jardin, on a vraiment des très beaux hellebores orientaux, qui sont des plantes plus grandes et qui fleurissent plutôt vers février. Mais c'est des plantes, on se rend compte en été, dès qu'il y a un petit manque d'humidité, vous avez un affaissement, ça tombe comme ça. Donc il faut mettre un bon paillis organique pour maintenir l'humidité, puis surtout bon que la plante ait tout le temps de l'eau pendant l'été, ça c'est important. Ensuite, il y a strictement rien à faire.
On laisse faire.
Je vous le disais, il faut pas les transplanter, ça n'aime pas ça. Donc vous laissez la touffe bien prospérer, ça peut devenir gros. Hein, on peut avoir une touffe qui fait 60-70 cm de diamètre. L'avantage étant que le feuillage est persistant, assez décoratif, c'est très coriace, un vert assez luisant, et avec une floraison qui a une période où normalement il n'y a pas grand-chose. Donc c'est quand même très très avantageux.
Patrick, il faut faire attention quand même, c'est toxique comme plante.
Oui, c'est extrêmement toxique, mais c'est extrêmement toxique que si vous la consommez. Ça agit alors avec des glucosides qui sont l'héléborine et l'héboréine, qui ont des effets vraiment délétères sur le système nerveux et sur le cœur. Donc ce sont des plantes qu'il faut manier quand même avec précaution, du moins quand on a des jeunes enfants. Alors c'est surtout au niveau des racines. Mais bon, franchement, avoir l'idée, même quand on est gamin, de parce qu'il faut quand même en manger des feuilles aussi coriaces que les feuilles d'hellebore.
Il faut vraiment avoir faim.
Voilà. Alors, on pourrait effectivement, un tout petit gamin, le mâchouiller et puis avoir des désordres un peu intestinaux. Bon, je sais pas.
Oui. Dites-moi, nos amis corses, visiblement, ont une histoire avec les hellebores depuis très longtemps.
Oui, alors les Corses sont des gens malins. D'abord, ils ont un hellebore à eux. Il faut bien le dire, donc ça c'est quand même un truc qui est pas mal. Ils ont un hellebore à eux qui s'appelle hellebore corsicus, et ils avaient l'habitude, alors je sais pas s'ils le font toujours, mais de tremper les jeunes plants de poireaux dans une décoction d'hellebore qui les protégeait contre la teigne du poireau, vous savez, le ver du poireau. Et puis, les bergers corses aussi nettoyaient avec une solution d'hellebore les plaies de leurs animaux qui avaient été attaqués ou qui avaient été blessés, de façon à éviter les infections. Donc peut-être qu'il faut s'inspirer des Corses avec l'utilisation de l'hellebore.
Encore une fois, c'est la dose qui fait le poison, on le voit, hein, quand on l'ingère, c'est toxique, et ça peut être aussi à des doses peut-être infinitésimales.
C'est une plante qui, depuis l'Antiquité, est utilisée à des fins médicinales.
Patrick, on revient dans un instant et on va s'intéresser aux champignons. Ce sera notre dossier de ce samedi matin. Qui sont-ils? Quel est leur rôle dans le monde végétal et l'écologie du jardin? Vous verrez, le champignon, c'est assez étonnant. Et puis, bien sûr, le 32-16, l'appli RMC Direct Studio. On écoute la météo et on sera de retour. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions, par exemple, sur les champignons. On vous attend, à tout de suite.
RMC.
6h-7h.
Je me suis un peu attardé dans la forêt parce que j'ai cueilli des champignons. Tu vois?
Votre jardin.
T'y connais-tu en champignons?
Ah oui, vous auriez vu ces couleurs, rouge, vif, tout acheté.
Non, vraiment, ils étaient beaux.
Et c'était quoi comme champignons au fait? Je sais pas, j'y connais rien en champignons.
François Sorel.
Cléo, j'aime ton nez mignon. J'aime aussi les champignons.
Et tu rêves des champignons?
Patrick Mulan.
Attention les champignons, les limaces sont en chasse. Ne sortez pas des maisons, les affamés.
Il est 6h30, c'est RMC. Merci d'être là. Peut-être venez-vous de nous rejoindre. Eh bien, sachez que vous êtes au cœur de ce rendez-vous jardin, comme chaque samedi. 6h-7h, Patrick Miolan, on va parler des champignons. Alors on évoque de temps en temps dans ce rendez-vous jardin les champignons, et c'est un sujet fascinant parce que finalement c'est ni un végétal ni un animal, hein, le champignon.
Ah non, c'est un être totalement
c'est
à part.
C'est un être totalement à part,
oui.
Qui je crois vous fascine un peu, hein.
Bah c'est fascinant parce que j'y connais pas grand chose. Non, c'est un monde qui est tellement complexe. Alors il est si complexe que on vous en parle aujourd'hui avec la sortie d'un livre, enfin je devrais dire de deux livres, parce que c'est une encyclopédie en deux tomes qui s'appelle Les champignons d'Europe tempérés, qui sont sortis chez Biotope Éditions. Ça représente plus de 1700 pages, je ne sais pas si vous imaginez, 1700 pages, 2800 espèces décrites, plus de 7000 photos, c'est vraiment...
Oui, c'est l'encyclopédie du champignon.
C'est un monument de travail. Alors j'ai souhaité invité à cette antenne le français, parce que le livre est d'origine danoise, qui a fait le travail énorme aussi de traduire, oui, et d'adapter ce livre. Il s'appelle Guillaume Essartier.
Et il est avec nous.
Et il est avec nous. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue sur RMC. Donc vous êtes chercheur attaché honoraire au Muséum d'Histoire Naturelle. Vous êtes surtout un mycologue reconnu qui a écrit de nombreux articles scientifiques et d'ouvrages de vulgarisation de mycologie. Alors dites-nous quand même quelques mots sur ce travail monstrueux que vous avez fait sur ce livre, parce que c'est quand même, c'est une bible, c'est une sommité quand même.
Oui, ce sont deux ouvrages effectivement majeurs pour la mycologie. Véritable encyclopédie, comme vous le disiez, qui présente une quantité considérable de champignons, bien qu'il ne soit pas exhaustif, comme malheureusement il est impossible de l'être en mycologie, la diversité des champignons étant trop importante. Mais ce sont deux ouvrages majeurs, écrits par deux excellents mycologues et magnifiquement illustrés. Et les éditions Biotope ont pensé qu'il était judicieux de que les Français puissent avoir à disposition une version française.
Alors Guillaume, j'avais juste une petite question. Combien de temps faut-il pour traduire ce type d'ouvrage?
Disons que là, nous avions des impératifs de sortie, donc j'ai traduit ça, j'ai réalisé un véritable marathon en traduisant ces deux ouvrages en environ 3 mois. Mais bon, voilà, disons que j'ai perdu quelques kilos.
Voilà. Ah oui,
très bien. Oui. Juste une petite précision technique, Guillaume, vous ne seriez pas surrempli sur votre téléphone par hasard?
C'est bien possible.
Alors voilà, si vous pouvez le prendre à la main et parler dans le combiné, voilà, ça sera plus confortable pour les auditeurs. Merci beaucoup.
Pas de problème.
Alors justement, Guillaume, quelques mots sur le règne des mycètes, des fungies, comme on dit, pour nous présenter un peu qui sont les champignons, et puis peut-être une petite idée aussi. Est-ce qu'ils sont très nombreux? On le voit avec le livre, vu l'importance d'espèces qu'il y a de présenter, mais par rapport au monde végétal, est-ce que c'est aussi important?
Alors c'est bon, pour répondre à votre première question, on sait depuis la fin des années 60 que les champignons forment un règne à part, hein, qu'ils n'ont strictement rien à voir avec les végétaux. Ils sont même relativement plus proches des animaux que des végétaux, contrairement à ce que l'on pense de façon traditionnelle. Et quant à leur diversité, elle est très difficile à établir aujourd'hui. Ce que l'on sait, c'est qu'elle est considérable, que l'on connaît extrêmement peu d'espèces actuellement, que la science a actuellement encore décrit peu d'espèces. On imagine que l'on connaît entre 1,5 et 5% des espèces présentes à la surface de la Terre. Donc c'est absolument considérable. Pour vous donner un petit exemple, on décrit environ 1500 espèces nouvelles par an de champignons. Nouvelles, oui, nouvelles pour la science. Et on estime qu'il faudra encore plus de 4000 ans pour décrire la totalité de la diversité à ce rythme-là. Et donc c'est absolument considérable. Et il ne faut pas imaginer que ce sont uniquement dans les pays tropicaux ou dans les contrées lointaines que l'on décrit ces espèces nouvelles, puisque sur les 2200 espèces nouvelles qui ont été décrites en 2017, 25% ont été décrites en Europe. Oui. Donc voilà, c'est une diversité considérable, et les mycologues que nous sommes, à chaque fois qu'on fait une sortie dans la nature, il est bien rare que l'on ne revienne pas avec des espèces nouvelles à décrire.
Ah ben ça, c'est quand même impressionnant et intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Alors justement, comment on peut décrire un champignon ? Cet organisme, il est tout à fait particulier ?
Oui, bien sûr, parce que pour la vision traditionnelle des champignons, c'est un chapeau avec un pied voilà. Mais pour un mycologue, le champignon, c'est un vaste organisme qui est essentiellement souterrain et qui fructifie à la surface du sol lorsque les conditions atmosphériques lui sont favorables. C'est-à-dire qu'il se reproduit. Les organismes reproducteurs que les gens consomment ne sont que la partie émergée de l'iceberg fongique qui est essentiellement souterrain. Pour vous donner un exemple, on sait aujourd'hui que le plus grand organisme vivant au monde, ni la baleine bleue comme on le croit parfois, ou les séquoias géants colossaux du parc national de Californie, mais c'est bien un champignon qui a pris place dans une forêt du nord-est de l'Oregon. Et on sait qu'aujourd'hui, selon des estimations récentes basées sur des études génétiques, il couvrirait une surface de 965 hectares, c'est-à-dire ça fait plus de 1300 terrains de foot, hein, et que son âge est estimé entre 2000 et 8000 ans, et qu'il pèserait entre 8000 et 35000 tonnes.
Voyez, donc,
C'est une armillaire. Et régulièrement, eh bien, ce mycélium colossal souterrain qui se voit même depuis l'espace, hein, que l'on perçoit depuis l'espace parce qu'il fait mourir les arbres au fur et à mesure de sa progression, eh bien, il fructifie régulièrement quand les conditions sont favorables à la surface du sol en produisant des champignons qui font quelques centimètres de diamètre. Voilà.
Oui, de quoi faire quelques omelettes quand même, hein, Guillaume là.
Exactement, oui. Ouais. S'il produit de façon régulière sur toute la superficie de son mycélium, oui, ça doit faire quelques tonnes de champignons.
Alors qu'est-ce qui différencie un champignon d'une plante ?
Mais à peu près tout, puisque les champignons ne sont pas, comme vous le savez, ne sont pas chlorophylliens, bien que c'est un peu rapide de dire ça, puisque les lichens, qui sont des champignons au sens strict aussi, hein, qui se sont simplement associés avec des algues au cours de leur évolution, sont photosynthétiques, puisqu'ils ont le partenaire de l'association fabrique la photosynthèse, enfin est capable de faire la photosynthèse, mais globalement ils ne sont pas photosynthétiques. Leurs produits de leurs substances de réserve cellulaire sont du type animal et pas du tout végétal. Ils ne se déplacent pas. Enfin, ils n'ont quasiment aucun élément commun, aucun caractère commun avec les plantes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ils sont plus proches finalement des animaux que des végétaux. Mais il faut savoir que d'un point de vue traditionnel, les champignons sont considérés comme des plantes uniquement dans les pays de l'hémisphère nord. Quand on se déplace un petit peu dans les autres pays de l'hémisphère sud, notamment en Afrique, eh bien les gens considèrent les champignons comme de la viande et les mangent comme de la viande.
Voilà. En revanche, bon, c'est aussi à l'inverse des plantes, ils sont incapables de fabriquer leur propre nourriture, puisque, comme vous le disiez, ils n'ont pas de chlorophylle. Donc là, ils se nourrissent plus ils se nourrissent quand même plus aussi comme une plante, parce qu'ils absorbent au lieu d'ingérer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a une ambiguïté quand même.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, en revanche, contrairement aux végétaux, ils sont dits hétérotrophes, c'est-à-dire ils ne sont pas capables de produire leur propre matière organique à partir de substrats inertes et de la lumière du soleil, contrairement aux plantes qui, elles, sont capables, à partir du gaz carbonique et de la photosynthèse, de produire leur propre matière organique. Donc ils absorbent, par l'intermédiaire de ces petits filaments qu'on appelle des ifs, les substances nécessaires à leur croissance dans l'environnement.
Alors justement, quel est leur rôle principal dans la nature ?
Alors, ils ont trois rôles principaux pour dire les choses rapidement. D'abord, ce sont la majeure partie des champignons, beaucoup de champignons sont des saprophytes. Ça vient de ce terme un peu technique vient du grec sapros qui veut dire pourri et phuton qui veut dire pousser. C'est tout simplement tous les champignons qui vont se développer sur la matière organique en décomposition.
D'accord.
Ils vont donc décomposer la majeure partie des organismes morts qui sans eux s'accumuleraient dans la nature, voilà.
Et dans ces cas-là, ils contribuent à la fertilité des sols, parce que là, du coup, les plantes vont pouvoir, voilà.
Tout à fait, au recyclage de la matière organique. Ils sont un des principaux recycleurs de matière organique avec les bactéries à la surface de la Terre.
Et on a aussi les associations directes avec les végétaux.
Voilà. Alors ensuite, ce sont les. Une fois qu'on a parlé de ces champignons, ça profite. On peut parler des champignons symbiotes ou symbiotiques, c'est-à-dire tous ceux qui sont associés avec d'autres organismes dans des associations à bénéfice réciproque. Alors là, on pense aux champignons dits mycorhiziens. Il faut penser que 80%, plus de 80% des plantes à la surface de la Terre ne peuvent pas vivre sans ces champignons associés au niveau de la racine. Hein, donc c'est très important, y compris dans les jardins. Toutes les plantes que l'on voit dans les jardins, à de rares exceptions près, sont associées au niveau de leur racine avec des champignons. Et ces champignons leur permettent de capter dans l'environnement des éléments qu'elles sont incapables de capter par elles-mêmes. Donc cette association est née il y a extrêmement longtemps. Hein. On imagine même que c'est elle qui a permis la colonisation du milieu terrestre par les végétaux. Hein. Mmh. Et donc cette association mycorhizienne s'est développée sur tous les continents à l'échelle planétaire. Et enfin le troisième grand rôle des champignons, ce sont les parasites, c'est-à-dire ceux qui se développent sur des organismes affaiblis.
Ça, c'est
et
moins
qui
sympa.
Souvent voilà, c'est moins sympa, mais ils ont un rôle très important dans la nature puisqu'ils favorisent le renouvellement des générations en s'attaquant notamment aux arbres affaiblis dans les forêts qu'ils tuent généralement, mais sur ces organismes morts vont pouvoir se développer d'autres champignons qui vont ainsi boucler le cycle de la matière organique.
Merci beaucoup Guillaume pour toutes ces précisions, c'est passionnant.
Oui, c'est passionnant.
Et si ça vous intéresse, vous avez de quoi lire.
Alors vous avez quoi lire avec Les champignons d'Europe tempérée, c'est chez Biotope Éditions, ça a donc été traduit et adapté par Guillaume Essartier parce que il a ajouté des espèces de champignons qu'on ne trouve pas au Danemark mais qu'on trouve en France. Il y a énormément de photos, il y a des roues d'identification dans les mêmes groupes, etc. Vraiment, c'est un cadeau à faire pour Noël à tous ceux qui adoreront les champignons.
Merci Guillaume.
Je vous en prie, au revoir.
Et bon week-end. On revient dans un instant sur RMC, la suite de ce rendez-vous Jardin Patrick avec Sébastien qui sera là. Il va nous parler de sa haie de Fautinia qu'il a plantée il y a 4 ans et il ne comprend pas, il a un problème avec sa haie de Fautinia. On va rentrer dans les détails. La météo du jardinier, bien sûr. Et puis, tout comme Sébastien qu'on va retrouver, peut-être encore la place de retrouver l'une de vos questions au 32-16 ou via l'appli RMC Direct Studio. Donc n'hésitez pas à nous appeler. A tout de suite.
RMC jusqu'à 7h.
Votre jardin. RMC
jusqu'à 7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
7h moins le quart. Un grand bonjour à vous qui venez peut-être de nous rejoindre sur RMC. C'est le week-end des experts et c'est le jardin. Patrick est là jusqu'à 7h. Et juste après, on retrouvera évidemment la maison avec Christian Pessé. La météo du jardinier dans quelques instants, Patrick. Mais auparavant, c'est Sébastien qu'on accueille. Bonjour Sébastien.
Oui, bonjour.
Bonjour Sébastien, bienvenue.
On vous écoute.
Bonjour messieurs. Donc, je vous appelle parce que en fait, j'ai planté une fautinia. Et j'ai dans le lot, il y a un qui a moins grandi et il y a moins d'envergure. Donc ce serait pour voir.
J'ai vu votre photo. Oui. Moi, je suis pas très très inquiet sur ça. Alors la raison principale, c'est essentiellement une question d'exposition. Alors vous allez me dire, ils sont tous les uns à côté des autres, ils devraient tous avoir la même disposition, enfin disons exposition, sauf que il y a des circulations d'air dans toutes les propriétés que l'on n'est pas capable d'exprimer en réalité parce que c'est imperceptible, c'est-à-dire que on ne voit pas l'air circuler. Et l'air ne circule pas de façon linéaire. Vous avez souvent des mouvements, et des mouvements qui sont cycliques, et qui sont assez nuisibles, si je puis dire, ou du moins réducteurs au niveau de la croissance des plantes. Je vous dis ça parce que nous avons vécu exactement le même phénomène dans notre propre jardin, avec une plante différente qui était un camélia, et au milieu du massif de terre de Bruyère, avec en apparence aucune raison particulière, eh bien, il y en avait un qui poussait moins que les autres.
Ah oui.
Il a suffi de mettre un panneau brise-vent juste à proximité de cette plante-là pour que quasiment du jour au lendemain, elles changent de comportement.
Très bien.
Donc, dans votre cas, je pense qu'il faudrait imaginer un petit peu la même chose, ou du moins faire déjà l'expérience, parce que vous verriez bien. Parce que la deuxième solution, qui à mon avis est moins évidente, parce que justement là, il y a une proximité des végétaux, ça serait qu'à l'endroit précis où vous avez planté ce photinia, le sol est différent de celui qu'il y a à côté. Alors ça peut exister, parce que comme je vous disais, il y a des courants au niveau de l'air, mais il y a aussi des veines dans le sol avec des constitutions qui peuvent être différentes. C'est rare que ce soit sur une toute petite échelle de 1 mètre. Bon, souvent, c'est quand même un petit peu plus important. Donc là, si jamais le panneau, la protection brise-vent ne fonctionne pas, à ce moment-là, il faudra essayer d'en regarder au niveau du sol. Alors, est-ce que aussi, à cet endroit précis, il y aurait pu avoir des choses enterrées précédemment qui gêneraient le développement de la plante? Est-ce que effectivement, dans le sol, il y aurait pas peut-être aussi, je sais pas, un gros caillou qui est là et qui gêne la prolifération des racines? Enfin, il y a plein de choses potentiellement à évoquer. Vous savez, ce qui est passionnant dans le monde du végétal quand on a justement un problème, c'est comme une enquête policière. C'est de se dire quels peuvent être les mobiles. Et donc, une fois qu'on a essayé de trouver quels peuvent être les éléments qui gênent la croissance de la plante, est-ce que, je sais pas, j'ai pas eu l'habitude pendant longtemps de jeter mon eau de vaisselle à cet endroit-là. Enfin, je dis n'importe quoi. Il y a des tas de trucs qui peuvent le faire. Donc, il faut remonter une sorte de filière, essayer de se dire, voilà, là, qu'est-ce qui s'est passé là, et après, vous trouvez généralement la solution. Mais sinon, il n'y a pas de raison apparente, et je pense quand même que l'idée du vent, c'est quand même la première des choses à voir. Pourquoi? Parce que sur la photo que vous m'avez envoyée, votre plante, elle n'est pas chétive, elle est moins haute simplement. On a l'impression, si vous voulez, qu'il y a quelque chose qui lui passe au-dessus de la tête et qui l'empêche d'aller plus haut. Voilà.
Très bien.
Merci voilà Sébastien. Merci beaucoup, à bientôt et bon week-end. Sébastien nous a appelé au 32-16, profitez-en, faites de même pour poser votre question. Jardin à Patrick Miolan, 32-16 ou bien via votre smartphone et l'appli RMC et Direct Studio. Patrick,
oui.
La météo du jardinier, ça y est, on va passer à l'heure d'hiver. Hein. Bon, là, voilà. Alors, c'est pas encore l'hiver, hein. On passe à l'heure d'hiver. Que nous réserve la météo pour les jours qui viennent?
Alors déjà une chose importante, à partir de Saint-Florentin, n'arrose plus que le matin. On n'arrose plus le soir, puisque nous avons des différences importantes de température entre le jour et la nuit. Et pour que les plantes bénéficient d'un arrosage sans être avec une sorte de douche écossaise, donc d'avoir une sensation de froid, il vaut mieux arroser dans le courant de la matinée que le soir à partir de maintenant. Alors, nous allons être toute la semaine sous une influence de vent sud-sud-ouest. Donc ça apporte à la fois de la douceur, mais aussi de l'humidité. Ces vents vont être relativement calmes, hormis demain, où ils vont souffler jusqu'à 45-60 km/h sur toute la moitié nord, et également dans le Lyonnais. Donc on va se lever demain sous la pluie, de Nantes à Lille, il y aura du soleil ailleurs, les minimales sont élevées par rapport à la saison, puisqu'on aura entre 10 et 14 degrés en plaine. Attention quand même, en altitude, ça baisse sérieusement, puisqu'on annonce 5 degrés sous abri à Bourg-Saint-Maurice. Et puis, l'extension de la zone pluvieuse va se faire dans la journée, notamment sur toute la moitié nord. Il y aura en revanche plein soleil sur toute la côte d'Azur,
cher
François. Et avec des températures qui atteindront quand même 21 degrés au bord de la Méditerranée, ce qui est très très agréable. Alors ces températures agréables de saison maintiennent quand même, comme je disais, un air très humide. Donc c'est le moment de nettoyer un petit peu le jardin, hein. N'hésitez pas, vous pouvez aussi élaguer les grands arbres ou les faire élaguer. Donc on va rester, donc, comme je vous disais, sur ce sud-ouest, vent calme à partir de lundi, et des températures qui vont rester agréables. Toutefois, mardi, plus de baisse de température, des maximales toujours acceptables. Donc, vous pouvez arracher les plantes, commencer à faire des tailles, etc. En revanche, à partir de jeudi, il y aura beaucoup, beaucoup plus de pluie, donc ça va être plus compliqué de jardiner. Et puis, vendredi, peut-être qu'on reviendra vers un temps un tout petit peu plus beau, avec un ciel dégagé, donc une température qui va
baisser, forcément.
Mais on n'est pas dans le gel.
Très bien. On accueille Serge qui nous attend au 32-16. Bonjour Serge.
Bonjour François, bonjour Patrick.
Merci
d'avoir pris mon appel, bien sympa de votre part.
On vous écoute.
Voilà, j'ai des soucis, un tout petit jardin devant ma maison. Je suis envahi de ronces. Alors, j'essaye de les arracher, je gratte un peu, mais ça repousse. Je voudrais savoir s'il y a un moyen, entre guillemets, peut-être chimique ou avec un chalumeau, je ne sais pas comment se débarrasser de ça.
La chimique, c'est terminé. Hein,
oui.
Depuis,
le Roundup est interdit.
Bah, il n'y a pas que le Roundup. L'ensemble des herbicides d'origine chimique sont interdits. On ne peut pas les utiliser.
Oui.
Les ronces font des racines extrêmement profondes. Donc, gratter un petit peu comme ça en surface, ça ne sert strictement. Enfin, pas à rien. Vous l'enlevez, mais ça revient.
Ça les retarde un peu.
Donc, les ronces se développent lorsque les terres sont très organiques. Donc ça veut dire quand même, la bonne nouvelle, c'est que votre terre est riche et de qualité. Et la seule solution que vous allez avoir, c'est de mettre des gants régulièrement. Et dès qu'on voit un tout petit morceau de ronce, moi j'utilise pour ça une gouge à asperges. C'est-à-dire, c'est un outil que vous pouvez enfoncer dans le sol assez profondément pour essayer d'aller chercher.
Quand la terre est bien meuble, ça peut aider d'aller bien plus bas, oui, effectivement.
Et puis tirer aussi un petit peu sur la racine de façon à en enlever un maximum. Et puis, alors, vraiment, une chose à ne surtout pas faire, si vous faites un potager dans cet endroit-là, c'est utiliser une motobineuse, par exemple, la meilleure façon de faire des boutures de ronces.
Il
faut vraiment travailler le sol à la main vous allez arriver à les avoir. Parce que en empêchant la plante de faire sa photosynthèse, c'est-à-dire d'avoir un développement de feuilles, vous n'allez pas lui permettre de
prospérer,
avoir son métabolisme normal. Donc il faut le faire régulièrement.
Et j'ai également ce côté pelouse, là, un rosier du Japon que j'ai essayé d'enlever parce qu'effectivement, à cause des épines, on finit toujours par se piquer, j'en avais marre. Et il refait des rejets au milieu de ma pelouse. Alors c'est pareil, c'est des racines profondes, faut que je prenne la gouge.
Là, sur ça, moi je prendrais plutôt la bêche. Parce que généralement les rosiers ça va pas plus de 30-40 cm de profondeur. En revanche, effectivement, vous pouvez avoir des gourmands qui se sont développés assez loin. Donc là, on fait un trou et puis on essaye d'extraire. Alors soit ce sont des stolons, soit ce sont des racines qui ont bourgeonné et puis on les extrait du sol. C'est un travail un peu physique, mais ça on peut y arriver plus facilement.
Serge, merci pour votre appel. Et c'est avec Serge qu'on termine ce rendez-vous jardin. Patrick, on gardera nos coups de cœur pour la semaine prochaine. Patrick Mulan, le samedi de 6h à 7h. Patrick.
Les jardinières, je vous embrasse, ma petite jardinière, ma petite perle. Comme d'habitude, je dis un grand bonjour à monsieur Christian Pousset.
Et merci, bonjour, Miu-Miu.
Monsieur PC, on va revenir sur notre prime Rénov.
Ben oui, parce que c'est loin d'être simple.
Ben
c'était présenté comme simplissime, en fin de compte, ça ne l'est pas. Et puis, il y a vraiment là un mode d'emploi à donner. Donc, j'ai fait venir aujourd'hui un spécialiste, qui est Jean-Baptiste De Valande, le DG de Texial, qui est une grande société spécialisée dans ce domaine.
Voilà, toutes vos questions sur ma prime Rénov, comment décrypter tout cela, est-ce que vous y avez droit, tout simplement, parce que c'est l'essentiel, finalement. Le 32-16, l'appli RMC Direct Studio, on revient juste après la météo et les infos de 7h pour la maison. À tout de suite.